que Jésus réponde devant, après avoir répondu de lui-même devant ses disciples, dont il est le juge, il va répondre devant le Sanhédrin, il va répondre devant Pilate, et puis sa mort est décrite comme le passage au Père. Et s'il passe au Père, c'est avec l'humanité entière. Son corps, sa corporéité, qui va entrer dans l'éternité de Dieu, c'est notre corporéité à nous, c'est notre universalité. Donc c'est raconté de façon très simple. C'est raconté comme une grande procession. Une grande procession qui va vers la croix. Il n'y a pas de grand déchirement, il y a simplement une lamentation des femmes sur le chemin du calvaire, mais ça nous est vraiment proposé comme un grand Yom Kippour, comme un jour du grand pardon. C'est une célébration du grand pardon, la passion de Jésus dans l'évangile de Luc. Et si vous la relisez détail par détail, vous verrez que c'est vraiment frappant. Alors, je prends seulement le verset 32 et suivant du chapitre 23, puis je m'arrête là. Or étaient menés avec lui deux autres malfaiteurs pour être exécutés. Les malfaiteurs, ça pourrait bien être nous. Et quand il vint sur le lieu appelé Crâne, là on le crucifia, et les malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, il a été mis parmi les malfaiteurs, on venait de dire par le reste. Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parole étrange, parce que nous pensons que pour qu'on puisse nous pardonner, il faut que nous sachions ce que nous faisons. Mais dans le judaïsme, ce n'est pas le cas, puisque le péché doit toujours être révélé. Et c'est toujours le pardon qui révèle le péché. C'est Dieu pardonnant qui nous révèle le péché. Sinon, il ne le ferait pas. C'est sa miséricorde qui nous révèle. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils jetèrent sur lui le sort tout en se divisant ses vêtements. En se divisant ses vêtements. Et le peuple, malfaiteur, peuple, se tenait debout, observant sans cesse, et les chefs aussi, nous sommes ici dans le judaïsme, se moquaient en disant d'autres il en sauva, qu'il se sauve lui-même, si celui-ci est le Christ de Dieu l'élu, reprise de la tentation. Et l'élu, c'était le terme qui avait été utilisé dans la Transfiguration. Les soldats aussi, il y a le peuple juif, il y a les soldats aussi, il y a d'abord les proches de Jésus, les malfaiteurs, il s'est mis parmi les malfaiteurs, puis il y a le peuple, et oui, bien, puis il y a les soldats, les païens, s'avançant aussi, le bafouet, portant près de lui du vinaigre et disant, si toi tu es le roi des juifs, eux ils n'ont pas perçu fils de Dieu ou Christ, peu importe, si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même. Et il explique, il y avait une inscription sur lui, le roi des juifs, celui-ci. Il a posé les personnes. Malfaiteur, peuple, soldat. Or l'un des malfaiteurs, ayant été suspendu à la croix, le blasphémait en disant, n'es-tu pas toi le Christ, sauve-toi toi-même et nous avec. Ici, c'est sauvé de la mort, évidemment. Ayant répondu, l'autre déclara le rabouant, toi non plus tu ne crains pas Dieu, parce que tu es dans la même sentence judiciaire, la même condamnation. Nous, c'est justement, tu prends conscience de son péché. Nous, c'est justement, car nous recevons en retour des choses dignes de ce que nous avons fait. Or, celui-ci n'a rien fait de malhonnête, pour qu'il reconnaisse lui aussi l'innocence de Jésus. Et il disait, la seule fois dans l'Évangile, où l'on appelle Jésus uniquement par son petit nom, où quelqu'un l'interpelle par son petit nom, Jésus. Entre condamné à mort, il n'y a plus de titre. Jésus, souviens-toi de moi quand éventuellement tu seras venu dans ton royaume. Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. En quelque sorte, c'est déjà fait. Voilà quelqu'un qui s'ouvre au pardon, souviens-toi de moi. Et quand on dit souviens-toi, c'est qu'on a un passé commun. Hein? Souviens-toi de moi. Et Jésus dit aujourd'hui. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Vous pouvez reprendre tous les aujourd'hui de l'évangile de Luc, vous verrez qu'il s'applique ici. Et à partir de ce moment-là, le monde s'accumule. C'est le moment attendu. Hein? La miséricorde est arrivée à destination. Alors, le monde change. Le monde va se transfigurer. C'était environ la sixième heure, la ténèbre arriva sur la terre jusqu'à la neuvième, comme le soleil s'était éclipsé. Le rideau du sanctuaire fut déchiré par le milieu, c'est-à-dire qu'on peut voir le Père présent dans l'acte de mourir de Jésus qui se remet au Père. Et ayant donné de la voix, il dit, « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Voilà l'humanité qui plonge en Dieu. La miséricorde plonge dans le monde et l'humanité plonge en Dieu. Ça, c'est l'acte de notre salut. Et on dit ceci, il expira. Son corps d'homme, son corps humain de Jésus de Nazareth, a été jusqu'au bout de ce qu'il avait à faire. Son corps mystique, comme le dira l'Église, son corps, le corps du Christ dont parle Paul, est en train de naître. Et le centurion, un soldat, ayant vu ce qui était arrivé, glorifiait Dieu en disant réellement, comme était arrivé. Voilà les païens qui accèdent symboliquement au salut. Et toutes les foules, s'étant rendues présentes à cette scène, ayant observé ce qui était arrivé, retournaient en se battant la poitrine. Ils s'en vont du Yom Kippour. Ils retournent chez eux. Ils ont découvert la miséricorde. Or, se tenaient debout de loin ceux qui lui étaient connus, et des femmes qui le suivaient depuis la Galilée, qui voyaient cela. Et voici un homme du nom de Joseph, voilà les proches de Jésus, qui se trouvait être conseiller homme bon et juste, qui ne s'était pas trouvé associé à leur dessein. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, qui était homme qui attendait le royaume de Dieu. Celui-ci, étant allé à Pilate, réclama pour lui le corps de Jésus. Pierre Emmanuel, dans un de ses poèmes, dit c'est le premier communion. Il réclame le corps de Jésus. Et il devient le corps de Jésus. Voilà. C'est parti. Et l'ayant descendu, il l'enveloppa dans un linceul, le mit dans une tombe taillée dans la pierre. Et effectivement, quand les femmes vont, hein, au début du chapitre 24e, à la tombe, ils ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Allez le découvrir. Et donc, Luc, ici, est en train de nous dire quelque chose de très profond, dont les pères de l'Église ont tiré pas mal de parties. En passant, d'ailleurs, de là à Saint-Paul. Je m'arrête là, simplement, c'était évocateur, de la réalité qu'il veut dire. Je prends encore un petit passage dans les Actes des Apôtres.
Lors de la session de Luc, au chapitre 24, je vais donner un titre que j'ai bien retenu. On passe de l'expérience de l'absence de Jésus à l'absence de Jésus avec Jésus.
C'est ça. L'absence de Jésus sans Jésus, à l'absence de Jésus avec Jésus.
Exactement.
Le chapitre 24e, Jésus est mort, il est parti, il est plus là. Son corps a disparu. Mais il est présent, il est agissant, il ressuscite. Et le signe qu'il est ressuscité et qu'il est présent, c'est qu'il agit par son esprit dans ce grand corps de l'humanité. Et le fait, l'absence de Jésus avec Jésus. Alors, cette absence de Jésus avec Jésus va se manifester dans les Actes des Apôtres dans le fait que l'envoyé, saint Paul, va constamment parler de la résurrection et en même temps il va mettre les gens en face du ressuscité qui parle à travers lui. C'est ça qu'il veut nous manifester dans toutes ses apologies. C'est la force même de sa parole, c'est de mettre tous ceux qui l'accusent, que ce soit maintenant les Juifs ou bien les Romains, qui ne l'accusent pas nécessairement, mais qui veulent faire une instruction la meilleure possible, essayer de voir ce qu'il en est, ils font son procès. Donc, ils veulent voir vraiment de quoi il s'agit, et ils sont constamment présents du ressuscité dans la personne de Paul. C'est ça que Saint-Luc veut nous montrer. C'est que Jésus a disparu, Jésus est présent. Et il est présent dans son discours, dans son témoignage. Et donc c'est pour cela que vous allez voir Saint-Paul parlant constamment de la résurrection et disant que c'est pour la résurrection des morts qu'il est mis en accusation. Oui, la force de son discours, ce n'est pas seulement qu'il parle de la résurrection des morts, c'est qu'il la vit. Et si on ne perçoit pas cela, on ne perçoit qu'une partie du texte. Alors, il raconte au chapitre 22e, lorsqu'il est pris sur l'esplanade du temple et libéré par le tribun, il raconte en termes juifs à ses frères israélites quelle a été sa mission et comment, de la même manière que Paul, il se justifie en quelque sorte en montrant qu'il était un bon juif, un bon pharisien, et que c'est vraiment le Seigneur qui l'a secoué et qui lui a permis d'aller plus loin. Et alors, quand il se trouve dans le Sanhédrin, en voyant qu'il y a des pharisiens qui croient à la résurrection d'un côté et des sadducéens qui n'y croient pas, ils les mettent l'un en face de l'autre, manifestant par leur division qu'ils ne peuvent pas encore percevoir qu'il est le signe du ressuscité parmi eux. Je vais simplement reprendre un passage du chapitre 26e. Lorsqu'il se trouve maintenant devant le gouverneur et devant le roi Agrippa, qui est de la famille de Hérode, qui vient rendre visite au nouveau gouverneur Festus avec sa sœur et femme Bérénice, et je regrette, si vous voulez avoir les détails, allez lire la guerre de Lui de Flavius Joseph. Et les Juifs de ce temps-là avec les Romains, c'était pas tout à fait toujours exemplaire. Alors, il y a au fond, Festus, qui n'y connaît rien, qui n'a pas instruit le procès, voudrait savoir ce qu'il doit dire à l'empereur, puisque Paul a demandé qu'il soit jugé, comme tout citoyen romain pouvait le faire, devant le tribunal de l'empereur. Et alors, il nous dit ceci. Donc nous sommes au chapitre 26e, au verset 2, Paul, ayant étendu la main, présenta sa défense. Au sujet de tout ce dont je suis mis en cause par les Juifs, roi Agrippa, je me trouve m'être dirigé moi-même en homme heureux. Je peux m'estimer véritablement heureux de tout ce que j'ai fait. D'aller présenter ma défense devant toi aujourd'hui. Parce que tu es connaisseur de toutes les coutumes, selon les Juifs, ainsi que de leurs discussions. C'est pourquoi je t'implore, il n'a plus qu'une femme juive, mais pourquoi je t'implore de m'entendre patiemment. Quant à mon genre de vie, depuis ma jeunesse, comme il arrive à l'être commencement, dans ma nation et à Jérusalem, tous les Juifs le savent, me connaissant par avance depuis l'origine. Éventuellement, ils veulent rendre témoignage que je vécus selon le parti le plus strict de notre pratique religieuse en pharisien. Donc, plus juif qu'un juif. Et maintenant, et voici le passage central, c'est sur l'espérance de la promesse arrivée à nos pères par Dieu que je me trouve debout étant jugé. Au fond, vous me jugez à cause de la promesse faite par Dieu à Abraham. La promesse faite par Dieu à Abraham, c'est de donner la vie. Et moi, c'est la seule chose que je vous dis, c'est que cette promesse est accomplie dans la vie qui a été donnée par Jésus de Nazareth. C'est-à-dire dans le salut qui est arrivé par le fait même que le Sauveur est présent en chacune de nos vies, dont j'ai fait l'expérience. Et c'est pourquoi il raconte avec tellement d'ampleur son expérience. Promesse à laquelle notre confédération des 12 tribus, rendant un culte avec intensité de nuit et de jour, espère aboutir. C'est au sujet de cette espérance que je suis mis en cause par des Juifs. Il s'agit de l'espérance du peuple juif. Donc il faut vraiment voir le témoignage sur Jésus dans le droit fil de la révélation faite au peuple. En quoi est-il jugé incroyable chez vous que Dieu éveille les morts? Quant à moi, je pensais qu'il me fallait agir par des actions contraires. Il va montrer justement comment lui-même a été transfiguré envers le nom de Jésus de Nazareth. Ce coup-ci, je fis à Jérusalem. Et moi, j'enfermais dans les prisons beaucoup de saints ayant reçu l'autorité de la part, ayant moi-même donc reçu l'autorité de la part des grands prêtres, et comme on les faisait périr, je portais mon suffrage. Et par toutes les synagogues, souvent leur infligeant un châtiment, je les forçais à blasphémer, et étant furieux surabondamment contre eux, je les persécutais jusque même dans les villes du dehors. Condition dans lesquelles, faisant route vers Damas avec autorité et procuration, celle des grands prêtres, comme le jour était en son milieu, je vis sur le chemin trois, venant du ciel, une lumière, passant la splendeur du soleil, qui m'enveloppa de clarté, moi et tous ceux qui faisaient route avec moi. Et comme tous nous étions abattus vers la terre, j'entendis une voix disant à mon adresse en dialecte hébraïque, « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il était dur de ruer sans cesse contre les aiguillons. Or, moi je dis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Or, le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, que toi tu persécutes. » C'est ces gens que tu persécutes, ces chrétiens, c'est moi. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre ces miens frères, c'est à moi que vous l'avez fait, disait Jésus, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Mais dresse-toi, tiens-toi sur tes pieds, fais l'expérience de la résurrection. Car c'est pour ceci que je fus vu de toi, pour te prendre en main d'avance comme homme de service, et témoin des réalités que tu vis, tu as fait l'expérience du salut, des réalités que tu vis, et de celles par lesquelles je serai vu à toi. Cette expérience va se répercuter et s'approfondir sans cesse dans ta vie. En te retranchant du peuple et des nations, vers lesquelles, moi, je t'envoie. Je t'exclus pour t'inclure. Je te tire dehors pour te mettre dedans. Pour ouvrir leurs yeux, pour les retourner de la ténèbre vers une lumière, et tout ça, ce sont des passages de Jérémie et d'Isaïe, et de l'autorité de Satan sur Dieu. Pour que par la foi en moi, eux reçoivent une rémission de péché et un sort parmi ceux qui se trouvent sanctifiés. Et ce que nous avons vu dans l'acte de mourir de Jésus, il est présent dans la mission de Paul. La mission de Paul, c'est de transmettre l'acte de mourir de Jésus. C'est de devenir fils, mourant et ressuscitant dans le Christ. C'est exactement cela qui est le noyau de la dernière partie de Paul, c'est de montrer jusqu'à quel point il est présent de Jésus pour les nations qui n'ont pas connu Jésus. Je m'arrête là. Ce que je pourrais dire de Rome va dans le même sens, simplement au chapitre 28e, nous voyons Paul confronté aux Juifs qui sont à Rome, auxquels il parle de Jésus, et ils n'ont aucune prévention, et comme ils ne veulent pas écouter jusqu'au bout. Les uns étaient persuadés par ce qu'ils disaient, chapitre 28, verset 25. Les autres ne croyaient pas. Or, étant sans accord les uns avec les autres, il peut montrer qu'il y a de la division dans le judaïsme, ils s'en allaient. Comme Paul avait dit, une unique parole événement. Il parla bien, l'Esprit Saint, par Isaïe le prophète, à l'adresse de vos pères. Disant, vos pères en question, c'est la mission d'Isaïe, chapitre 6e. C'est la mission d'endurcissement. Là où Isaïe est envoyé pour endurcir le peuple, c'est-à-dire pour lui montrer, c'est ça, endurcir le peuple, c'est lui montrer jusqu'à quel point il est résistant à la présence de Dieu. C'est route auprès de ce peuple. Il dit, d'écoute, vous entendrez, vous ne comprendrez pas. Regardant, vous regarderez, vous ne verrez pas. Car il fut épaissi le cœur de ce peuple, et les oreilles, ils entendirent lourdement, et leurs yeux, ils les bouchèrent, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, que leurs oreilles ils n'entendent, et que du cœur ils ne comprennent et ne se retournent. Et je les guérirai. Je ne sais pas comment il y a dans vos...
Et je les aurai guéris.
Voilà.
Et je les guérirai.
Et je les guérirai, dit le texte grec. Et je les guérirai. Mais la guérison ne pourra passer qu'après la révélation de leurs instincts meurtriers, de leur existence. Que vous soit donc connu que c'est aux nations que fut envoyé ce salut de Dieu. Et bien sûr qu'ils le savent. C'est vraiment leur mission de juif. Eux, ils entendent. Et le fait qu'ils entendent par la parole de peuple, par la parole de Paul, pardon, sera pour les juifs le signe que leur mission est vraiment accomplie, mais par Paul. Or, une double année tout entière, il demeura dans un logement en location, donc il était en assigné en résidence, assignation de résidence, et il faisait bon accueil à tous ceux qui pénétraient auprès de lui, les hospitaliers, proclamant le royaume de Dieu et enseignant au sujet de Jésus, du Seigneur Jésus-Christ, les trois termes sont mis, avec toute assurance et sans entrave. Un prisonnier libre. Il nous faut maintenant retourner pour les 7 minutes qui restent aux Éphésiens. Comment vivre la liberté que nous donne le corps du Christ que nous sommes dans la réalité concrète de notre existence? Et justement, je vous laisse sur des questions, bien entendu, parce que ce serait beaucoup trop long. À ce moment-ci, saint Paul, pour nous dire cela, va prendre des détails qui nous semblent un peu anodins, d'une morale sociale d'abord, et puis d'une morale domestique ensuite. Si on regarde ces passages, morale sociale, morale dite domestique, simplement en eux-mêmes, comme des conseils de moralité publique ou intérieure, ça ne signifie absolument rien. Si l'on regarde à partir du corps du Christ, c'est-à-dire de cette union intime qui s'est faite à la croix entre Jésus mourant et chacun d'entre nous et son corps qui est l'Église, qu'il place au cœur de la Trinité, alors tous ces détails moraux prennent une ampleur extraordinaire. C'est comme manifestation de la résurrection que ces conseils sont dits. Voilà comment Paul le dit. Donc je commence au chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivent les païens, que leur intelligence conduit au néant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de signification définitive à leur vie. Leur pensée est la proie des ténèbres, et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Vous avez appris le Christ. Donc la morale chrétienne, c'est apprendre le Christ. C'est pas apprendre des trucs, c'est apprendre à vivre. Si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler, si c'est lui qui vous a été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus, il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt, c'est-à-dire de votre humanité qui n'a pas son sens définitif en vous-même, sous l'effet de convoitise trompeuse, sous l'effet de vos programmations, sous l'effet de vos envies, de vos idées de société. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle, c'est-à-dire par l'esprit qui vous transforme, l'Esprit Saint, de votre intelligence, et revêtir l'homme nouveau, ça c'est le corps du Christ, cet homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. Vous voilà donc débarrassé du mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain. La vérité, c'est Jésus. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc être membre du corps du Christ, c'est être membre les uns des autres. Donc mon frère, ma soeur sont ma chair. Car nous sommes membres les uns des autres. Êtes-vous en colère? Je ne sais pas. N'allez pas jusqu'à ce que votre colère soit mortifère, qu'elle porte la mort. Que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Ne donnez aucune prise au diable. Voilà, c'est la seule fois où on parle de diable. Celui qui volait, qu'il cesse de voler. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. C'était une société dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de chômage, évidemment. Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, parce que les paroles coulent. Mais s'il en est besoin, quelques paroles bonnes, capables d'édifier et d'apporter une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. On disait à Ananie et Saphir qu'ils avaient menti à l'Esprit Saint, c'est-à-dire à la réalité de la communauté qui est porteuse de l'Esprit. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela va disparaître de chez vous comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Vivez, autrement dit, le corps du Christ. Voilà l'expression de la morale. Ce sont bien sûr des invitations concrètes, mais on voit à partir de quoi il parle. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Voilà. Inscrivez-vous au cœur même de cet acte filial du Christ, en reconnaissant le Christ dans votre frère et votre sœur. Donc c'est ça, bien sûr, le centre de sa morale. C'est livrer lui-même à nous pour Dieu en offrant des victimes comme un parfum d'agréable odeur. Un Yom Kippour. De débauche, d'impureté, quelle que soit, de cupidité, il ne doit plus en être question parmi nous. Cela va de soi pour les saints. Pas de propos grossiers, stupides ou scabreux, c'est inconvenant. Donnez-vous plutôt à l'action de grâce. Car sachez le bien, le débauché, l'impur, l'accapareur, cet idolâtre sont exclus de l'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous dupe par de spécieuses raisons. C'est bien tout cela qui attire la colère de Dieu sur les rebelles. Autrement dit, quand vous ne vivez pas cette union des uns et des autres comme étant membres les uns des autres, vous introduisez un venin dans la communauté même. Ne soyez donc pas leurs complices, autrefois vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, vivez en enfant de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur, ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi on dit, éveille-toi ou toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. La lumière, c'est le Christ. Et vivre dans la communauté chrétienne, c'est être témoin vivant du Christ, comme Saint Luc nous a montré que le témoin était toujours la personne du Christ, mise en quelque sorte à la disposition des gens qui ne l'ont pas connu. Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre, ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la perdition, mais soyez remplis d'Esprit Saint. Je pourrais un peu vous dire d'où chacune de ces formules est tirée, il faudrait du temps, mais nous n'en avons pas. Nous lisons seulement ce texte comme, en quelque sorte, comme réactif, comme intériorisation. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez, célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu. Nous trouvons à la prière en tout temps. Hein. Rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui craignez le Christ, craindre peut toujours prendre distance par rapport à l'autre, ne pas mettre la main sur le secret de l'autre. Vous qui craignez le Christ, qui lui donnez toute sa dimension, vous le respectez. Soumettez-vous les uns aux autres. Et ce mot de soumission qui n'est pas toujours bien compris, nous en trouvons la